Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources partagées. Aujourd'hui, on a entre les mains un numéro assez dense. C'est le numéro 99 de l'hebdo marocain eWeek, celui du 28 septembre 2025. Et notre objectif, c'est de décortiquer tout ça, de voir ce qui en ressort d'important, les tendances, peut-être même les points un peu surprenants. On va parler politique marocaine, économie, internationale, et puis aussi tech et culture. Une vraie plongée dans l'actu de cette semaine-là. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux en premier? Il y a une décision du gouvernement au Maroc qui a l'air d'avoir, un peu surpris pas mal de monde. Ça vient du ministère de l'Agriculture. Ça concerne l'abattage des brebis et des chèvres, les femelles, quoi. Parce qu'il faut se rappeler, en mars, à cause de la sécheresse et des prix qui flambaient, ils avaient interdit d'abattre les femelles pour protéger le cheptel reproducteur.
Oui, c'était ça l'idée, préserver l'avenir. Il y avait même une aide financière pour les éleveurs, je crois.
Exactement, 400 dirhams par tête, donc ça semblait assez logique, non? Protéger la ressource. Et voilà que 6 mois plus tard, patatras. Changement de cap, l'interdiction est levée, sauf pour les bêtes qui sont visiblement pleines. Et l'édito dit oui que, image pas ces mots, il pointe une certaine incohérence.
Oui, il parle d'incompréhension.
C'est ça. On mentionne bien un recensement du cheptel fait pendant l'été. Mais bon, est-ce que ça suffit comme explication alors que la sécheresse est toujours là, que les prix restent hauts? Ça pose question sur la stratégie, en fait.
Mais oui, et au-delà de la simple question, c'est la confiance qui est en jeu. La confiance des éleveurs, d'abord. Ils ont besoin de savoir où ils vont, quand même. Et puis, c'est toute la filière. On a l'impression qu'on navigue un peu à vue, peut-être sous la pression du marché, des abattoirs qui manquent de bêtes, qui sait. Mais ça s'oppose à la nécessité d'avoir une vision, une vraie vision à long terme pour la souveraineté alimentaire, surtout avec le manque d'eau qu'on connaît. Ce genre de volte-face sans explication vraiment claire, ça peut fragiliser tout le secteur. Il faut de la cohérence et il faut communiquer dessus.
De la cohérence. Alors ça, par contre, on en trouve, ou du moins une ambition très forte, du côté des infrastructures. Là, on change complètement d'échelle avec le lancement du méga plan ferroviaire par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Casablanca. Tenez-vous bien, 20 milliards de dirhams juste pour la région de Casa. Et c'est qu'une partie d'un plan national qui avoisine les 100 milliards. L'objectif, c'est clair, révolutionner les transports.
Ah oui, là, les chiffres sont impressionnants. Hein.
Carrément. On parle d'une nouvelle gare géante, Casablanca Sud. 700 millions de dirhams, 12 millions de passagers par an attendus. Elle connectera le TGV, les trains régionaux et même un service direct vers l'aéroport. Et ce n'est pas tout. D'autres gares prévues, une près du futur Grand Stade, une autre à l'aéroport Mohamed V.
Et le délai annoncé court, non?
C'est court. 24 mois pour la livraison. Plus un nouveau réseau, le TMP, train métropolitain, sur quasi 100 km pour relier les grands pôles et désengorger la ville. Au total, c'est 3 gares nouvelle génération, 10 gares de ce TMP, 5 gares modernisées, 260 km de voies en plus. C'est vraiment colossal.
Colossal, c'est le mot, oui. Ce qui est frappant, au-delà des sommes, c'est la vision d'ensemble. Relier les zones d'affaires, les quartiers résidentiels, l'aéroport, le stade, c'est vraiment l'idée de tisser une toile de transport moderne pour soutenir le développement de la ville, de la région. Ça illustre bien cette stratégie marocaine de miser sur les grandes infrastructures pour booster la croissance et l'attractivité.
C'est un pari énorme.
Oui, et le défi, bien sûr, ce sera de tenir les délais, de gérer l'impact de ces chantiers gigantesques sur la vie quotidienne aussi.
Oui, c'est sûr. Et pendant que ces projets pharaoniques se dessinent, l'hebdo nous montre aussi d'autres facettes de l'économie et de la société marocaine. Un tableau plus contrasté, disons. Par exemple, 1 milliard de dirhams prévus pour moderniser les marchés en milieu rural. Ça, c'est important pour dynamiser ces zones.
Absolument essentiel même.
Il y a aussi quelques bonnes nouvelles. Les prix de gros de la viande rouge qui baissent un peu à Casablanca, le secteur des assurances qui bat des records. Et puis, un secteur qui cartonne, c'est l'agri-food tech, ces startups de l'agroalimentaire. Elles lèvent pas mal de fonds.
Oui, c'est un secteur en pleine effervescence au Maroc.
Mais à côté de ça, il y a des défis qui restent immenses. L'article rappelle une chose assez préoccupante. 1 enfant sur 3 au Maroc vit encore dans la précarité.
Un chiffre qui interpelle.
Oui. Malgré les progrès faits, notamment sur la mortalité infantile, on parle de pauvreté multidimensionnelle, donc ça inclut pas que l'argent, mais aussi la santé, l'éducation, les conditions de vie. Et ça touche plus d'un tiers des enfants. Et les inégalités ville-campagne sont toujours très marquées. pour l'accès à l'eau potable, par exemple, ou même au collège et lycée en zone rurale.
C'est le grand paradoxe, effectivement.
Une économie qui se modernise à grands pas, mais une partie de la population qui peine à suivre.
Exactement. Ce contraste, on le retrouve souvent. On investit des milliards dans le TGV, dans des gares ultra-modernes, mais l'accès à l'eau potable reste un combat quotidien dans certaines régions. On se réjouit des succès de la tech, et c'est très bien, mais la précarité des enfants reste à un niveau beaucoup trop élevé. Cette notion de pauvreté multidimensionnelle, elle est clé. Elle montre bien que le développement, c'est pas juste le PIB qui augmente. Le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde en profite, que ces progrès soient partagés.
Un autre exemple de paradoxe ou de décalage, c'est le Bitcoin.
Ah oui.
Officiellement, les cryptos sont interdites au Maroc depuis 2017, mais eWeek avance un chiffre, près de 2 millions de Marocains en détiendraient.
Ah oui, quand même.
Ça place le Maroc dans le top 10 africain. Du coup, la Banque centrale, Banque Al-Maghrib, elle est en train de préparer une loi pour encadrer tout ça. Et elle réfléchit même à créer sa propre monnaie numérique. C'est intéressant de voir comment l'usage, la pratique, finit par pousser la réglementation à évoluer.
C'est un cas d'école, ça. L'interdiction pure et dure face à une technologie qui se répand comme ça, ça montre vite ses limites. La Banque centrale semble l'avoir compris, elle cherche plus à encadrer qu'à interdire maintenant. Et en même temps, elle explore les possibilités d'une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale. C'est une approche pragmatique qui reconnaît une réalité, une nouvelle économie qui émerge, tout en essayant de gérer les risques. Les risques de blanchiment, la protection des consommateurs, etc.
Alors si on regarde maintenant le Maroc et ses relations avec l'extérieur, un chiffre d'Eurostat qui est assez marquant. Plus de 188 000 Marocains ont obtenu un titre de séjour dans l'Union européenne en 2024. C'est un record.
188 000, c'est énorme.
Oui, et ça fait de Marocains la troisième nationalité, juste après les Ukrainiens et les Indiens. Les raisons principales, le travail et la famille. D'ailleurs, pour le regroupement familial, les Marocains représentent presque la moitié des bénéficiaires.
Ça confirme vraiment le rôle pivot du Maroc dans les flux migratoires entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe reste très attractive manifestement. Et ça montre aussi que les voies légales pour le travail ou la famille fonctionnent et sont importantes pour la diaspora marocaine. C'est un élément majeur dans la relation Maroc-UE, c'est certain.
Autre partenariat, mais dans un domaine très différent, la technologie, l'IA. L'article parle d'un accord stratégique important signé avec Mistral AI. C'est l'entreprise française d'intelligence artificielle qui est en pleine ascension.
Ah oui, Mistral, on en entend beaucoup parler.
L'idée, c'est de créer un centre de recherche et développement en IA au Maroc, de former des gens sur place, de soutenir les startups locales. Mistral amène son modèle magistral, qui a la particularité apparemment d'être assez transparent, d'expliquer comment il résonne.
C'est un choix stratégique intéressant pour le Maroc. S'allier avec un acteur européen comme Mistral, plutôt que de dépendre uniquement des géants américains ou chinois. Ça peut s'inscrire dans une recherche de souveraineté numérique. Le potentiel est là, c'est sûr. Développer des IA adaptées aux besoins locaux.
Oui, dans l'administration, la santé, l'éducation.
Exactement. Et surtout, le gros enjeu, ce sera d'intégrer les langues locales. Le Darija, l'Amazir, c'est un défi technique, mais c'est crucial. Après, l'annonce, c'est une chose. Le vrai défi, ce sera la mise en œuvre. Créer un écosystème qui fonctionne, former les compétences nécessaires, s'assurer que ça bénéficie vraiment au pays.
À suivre de près. Sur un plan plus diplomatique, on note aussi une rencontre à New York. C'était en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, rencontre entre Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, et son homologue russe, Sergueï Lavrov.
Classique des rencontres en marge de la GNU. Pas plus de détails sur ce qui s'est dit.
Non, l'article ne donne pas de détails sur le contenu des discussions. Et puis, toujours sur le Maroc et le monde, une mesure très concrète qui est liée à la future Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Pour les supporters de 8 pays africains qui n'ont normalement pas besoin de visa, je pense à l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, etc., eh bien, il faudra quand même une autorisation spéciale.
Une sorte de visa spécifique pour l'événement.
C'est ça. Une AEVM, autorisation électronique de voyage au Maroc, et aussi un Fan ID. Le tout se fera via une application mobile, Yalla. C'est clairement pour gérer les flux de supporters et assurer la sécurité pendant la compétition.
Logique pour un événement de cette ampleur.
Bon, on change d'ambiance maintenant. On passe à un contexte international beaucoup plus tendu qui occupe une place importante dans ce numéro d'eWeek, notamment autour d'Israël et de la Palestine. Il y a un article qui reprend une analyse assez frappante de l'hebdomadaire The Economist. Le titre pose la question « Israël est-il en train de perdre l'Amérique ?»
Question lourde de sens venant des économistes.
En effet, l'article cite des chiffres de sondage qui montrent une érosion assez nette du soutien populaire américain à Israël. Une majorité aurait maintenant une opinion défavorable. Et chiffre encore plus marquant peut-être, 43% des Américains interrogés penseraient que ce qui se passe à Gaza s'apparente à un génocide.
C'est un basculement potentiellement majeur de l'opinion publique américaine.
Oui, et ça toucherait même des soutiens traditionnels, comme une partie des jeunes évangéliques. Le soutien bipartisan historique semble s'effriter.
Le fait que The Economist, qui est souvent lu comme un reflet des élites et des décideurs, mette sien en avant, c'est un signal fort. Si cette tendance se confirme, ça pourrait avoir des conséquences très importantes sur la politique étrangère américaine dans la région, peu importe qui est à la Maison-Blanche. C'est une pression interne qui peut changer la donne.
Et cette tension, elle se voit aussi très concrètement aux Méditerranées. L'Hebdo rapporte des attaques contre une flottille humanitaire, la Global Sumud Flotilla, qui tentait de rejoindre Gaza. On parle d'explosions, d'objets largués par des drones, attribués à Israël.
Des incidents graves en mer.
Oui. Et ce qui est nouveau, et que l'article souligne, c'est la réaction de certains pays européens. Des navires militaires espagnols et italiens ont été déployés pour escorter la flottille, la protéger.
Ah, ça c'est un changement notable. On n'est plus seulement dans les déclarations. Passer un engagement naval, même d'escorte, pour défendre une mission humanitaire face à des actions hostiles, c'est une posture plus affirmée. Ça met ces gouvernements, l'Espagne et l'Italie ici, dans une position délicate vis-à-vis d'Israël, mais ils semblent assumer ce choix de défendre le droit humanitaire en mer. Ça traduit sans doute une exaspération face au blocage de l'aide à Gaza.
La pression monte aussi sur un autre terrain, le sport. Des experts de l'ONU, des rapporteurs indépendants, ont appelé la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël des compétitions internationales de football.
Une demande forte. Sur quelle base?
Ils se basent sur des rapports d'une commission d'enquête internationale qui accuse l'État d'Israël d'actes pouvant s'apparenter à un génocide à Gaza. Ils précisent bien que la demande vise l'État, pas les athlètes individuellement.
C'est le débat récurrent sur le rôle et la neutralité des instances sportives face aux conflits et aux violations graves du droit. Historiquement, il y a déjà eu des exclusions, l'Afrique du Sud pendant l'apartheid par exemple. C'est toujours complexe parce que ça touche à l'idée d'universalité du sport. Mais ça montre que même le monde du sport n'est pas une bulle isolée. Il devient une arène où s'exercent aussi des pressions politiques et éthiques.
Et dans ce climat, l'Hebdo note aussi que plusieurs pays occidentaux importants ont franchi le pas de la reconnaissance de l'État palestinien récemment. Le Portugal, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada.
Oui, ça s'ajoute à la longue liste des pays qui l'avaient déjà fait. C'est un mouvement diplomatique significatif.
L'article mentionne aussi une déclaration de Donald Trump qui se serait opposé à une éventuelle annexion de la Cisjordanie par Israël. Bref, on sent que les lignes bougent un peu partout, même si c'est encore très confus. Bon, allez, on change de sujet pour finir, on va vers des choses un peu plus tech, lifestyle, culture. Ça fait aussi partie de l'actualité de la semaine. D'abord, un truc très concret pour ceux qui voyagent beaucoup. Le 12 octobre 2025, c'est l'arrivée du nouveau système de contrôle aux frontières de l'Union européenne, le système EES.
Ah oui, la fin des tampons sur le passeport.
Exactement. Place au contrôle biométrique, empreintes digitales, photos, pour tous les voyageurs non européens. Ça concerne directement les Marocains qui vont en Europe. Faut s'enregistrer numériquement.
Une nouvelle étape dans la numérisation des frontières.
Ensuite, l'IA, évidemment, ça continue de s'emballer. On parle de xAI, la boîte d'Elon Musk, qui chercherait à lever 10 milliards de dollars pour une valorisation folle de 200 milliards.
Voilà. Des chiffres qui donnent le vertige.
Huawei qui annonce des puces ultra puissantes et un projet de partenariat monstre entre OpenAI et Nvidia. 100 milliards de dollars pour décupler la puissance de calcul derrière ChatGPT. C'est une course effrénée à la puissance.
Oui, une course qui soulève d'énormes questions sur la concentration du pouvoir technologique entre quelques acteurs, sur l'énergie que tout ça consomme aussi. C'est devenu l'enjeu stratégique numéro un, clairement.
Côté produit, des petites innovations, hein. Une batterie plus fine et plus solide pour le futur iPhone Air, un écran smartphone chez Samsung qui pourrait se flouter sur commande pour éviter les regards indiscrets.
Malin ça.
Et Google Chrome, qui pourrait bientôt lire les articles à voix haute, les transformer en mini-podcasts grâce à l'IA. Dans l'automobile aussi, ça bouge. L'article souligne la montée en puissance des constructeurs chinois comme BYD dans la voiture électrique.
Ils bousculent tout le monde.
Oui, et ils citent Carlos Ghosn qui tire la sonnette d'alarme pour les constructeurs historiques. Adaptez-vous vite, sinon.
Sinon, le risque est existentiel, dit-il. C'est une vraie révolution industrielle.
Et puis, quelques tendances plus légères côté lifestyle. Vous connaissez la to-do list inversée?
Non, dites-moi.
Au lieu de lister ce qu'il faut faire, on note ce qu'on a déjà accompli dans la journée. Apparemment, c'est bon pour le moral, ça motive.
Ah, c'est pas bête comme astuce psychologique. Voir le chemin parcouru plutôt que la montagne à gravir.
C'est ça. Et une autre tendance, un peu étrange peut-être, « Hug my younger self ». Des gens utilisent l'IA, comme Google Gemini, pour créer des images d'eux-mêmes adultes, faisant un câlin à leur moi enfant. C'est un mélange d'IA et de nostalgie.
Intéressant. Ça montre comment la technologie vient toucher à l'intime, à notre rapport au passé, à nos émotions. Ça peut être touchant ou un peu fabriqué, peut-être. Ça dépend comment c'est utilisé.
Oui, c'est toujours la question avec ces outils, enfin, la culture. L'Hebdo salue le succès de la fête du cinéma au Maroc. 60 000 spectateurs, un tarif unique et bas à 30 dirhams. C'était populaire.
Une belle initiative pour rendre le cinéma accessible.
Et puis, un moment très émouvant, relayé par l'article, Abderrahim Ouida, un jeune garçon rescapé du terrible séisme d'Alaouz.
Oui, je me souviens de cette tragédie.
Il a été invité par le Real Madrid à donner le coup d'envoi symbolique d'un match. Un très beau geste de solidarité, un symbole fort de résilience.
Absolument. Ces moments-là, ça rappelle l'importance de l'humain, de l'empathie, au milieu de tout ce flot d'infos, de technologies, de tensions. C'est essentiel.
Alors, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on a vu dans cette iWeek, qu'est-ce qu'on retient ? C'est la densité d'une semaine ordinaire, en quelque sorte, et surtout comment tout est lié. Les enjeux locaux au Maroc, le développement, les inégalités, l'eau.
Oui.
Et les grandes tendances mondiales, la géopolitique, l'IA qui explose, les migrations, tout s'entremêle.
Le plan ferroviaire, le pari sur l'IA, c'est ça. Et de l'autre, il y a des réalités sociales qui sont dures, qui persistent, et des crises internationales qui ont des impacts très concrets. Et au milieu de tout ça, y a les gens qui essaient de s'adapter, d'innover, de trouver du sens. Que ce soit en utilisant le Bitcoin malgré l'interdit, en lançant une start-up dans l'agritech ou juste en allant au cinéma pour s'évader un peu.
Et ça nous laisse peut-être avec une question pour conclure notre échange. Face à ce flux continu d'informations entre les promesses incroyables de la technologie et les réalités parfois si sombres, entre les décisions politiques aux effets incertains et les drames humains qui nous touchent, comment on fait pour garder une vision claire, pour rester informé, engagé, sans se laisser submerger par toute cette complexité?
Vaste question.
Quelle est la boussole, finalement? C'est une question ouverte, je crois, qui nous concerne un peu tous et toutes, non?